Alors maintenant, je souhaite restreindre encore et ne pas prendre tout l'Ancien Testament, puisque il y aura la conférence de ce soir. Et donc là, je voudrais essayer d'avoir une vue un peu plus générale ce soir. Donc pour cet après-midi, j'ai choisi une approche limitée. Donc je ne vais pas présenter même le sujet tel qu'il est formulé, comment l'Ancien Testament présente les autres religions. Je ne vais pas présenter les grandes lignes, par exemple l'affirmation que Dieu est le Dieu des dieux, qu'il est le Seigneur des seigneurs, ou l'affirmation que les divinités des païens ne sont que des idoles. Je ne vais pas présenter cet apport central du message de l'Ancien Testament. Je voudrais m'arrêter à quelques textes qui semblent dire des choses qui sont assez différente de ce message bien connu de l'Ancien Testament, et voir un peu quelles peuvent être les conséquences de ces textes et de l'exégèse de ces textes pour l'étude de notre sujet. Alors les deux, il y a un texte en particulier, et puis ensuite une série d'autres textes. Le premier texte que je voudrais aborder, c'est le texte de Malachie 1, verset 11, où le prophète dit « Grand est mon nom parmi les nations, en tout lieu on offre de l'encens, on fait une offrande à mon nom, une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations. » Alors la question qui est posée par ce texte, les païens, en fait, rendent-ils un culte au vrai Dieu, au Dieu d'Israël ? Malachie 1, verset 11. Donc nous arrêterons sur ce texte. Et puis ensuite, une série d'autres textes, et la question que peuvent poser ces textes est la suivante. Est-ce que c'est Dieu qui a donné aux païens l'objet de leur culte ? Et le premier texte, c'est Deutéronome 4, verset 19. Ce texte parle de met en garde les Israélites contre l'adoration du soleil, de la lune et des étoiles. Et puis il dit, c'est la part que Dieu a donnée à tous les peuples, mais vous, Dieu vous a choisi, donc vous devez adorer le Seigneur. Mais est-ce que le texte dit que la part des nations, est-ce que c'est Dieu qui est au fond a donné aux païens l'objet de leur adoration? Ça peut être relié à Deutéronome 29 verset 25, où il est question de faux dieux adorés par Israël. Et l'auteur dit, ça n'est pas votre part. Ça n'est pas votre part. Donc, sous-entendu, on pourrait dire, ça c'est la part des nations, mais ça n'est pas la vôtre. Et puis, encore, dans cette même, dans ce même environnement, un autre texte est toujours dans le Deutéronome, Deutéronome 32, versets 8 et 9. Lorsque le Très-Haut répartit les nations, il les a réparties en fonction. Alors, il a déterminer les limites des peuples. Est-ce que c'est en fonction des fils d'Israël ou est-ce que c'est en fonction des fils des dieux ou des anges? Alors, c'est le texte de Deutéronome 32, versets 8 et 9, peut avoir aussi un rapport avec ce sujet. On a associé aussi de Daniel 10, 13, 20, 23 et 12, 1, où il est question des chefs de la Perse, je ne sais plus quelle est l'autre nation étrangère. Donc il semble qu'il y a des anges qui résistent à l'action de Dieu et qui sont considérés comme les chefs des nations. Donc y aurait-il des chefs angéliques des nations? Et est-ce qu'il faudrait relier ces chefs angéliques des nations aux divinités qu'adorent les nations? Donc voilà un peu les questions auxquelles je voudrais essayer de répondre. Vous me ferez signe, donc il est 5h20, à quelle heure il faut que je m'arrête? Parce que ce serait sympathique s'il y avait un petit temps pour les questions.
Combien de temps il faut là,
je ne sais pas, je vais régler mon temps en fonction de... Oui. Enfin, je vais régler ce que je vais dire en fonction du temps qui est disponible.
Partons pour 3/4 et puis on...
Oui. D'accord.
C'est possible.
Oui, je vais essayer d'arrêter vers 6h, on va voir. Alors, le premier texte, Malachie 1, verset 11. Dans le contexte, le prophète reproche à ses contemporains, et en particulier aux prêtres, de négliger le culte de Dieu, d'accepter des animaux ayant des malformations pour les sacrifices. Et il ajoute au verset 11, « Car du levant au couchant, grand est mon nom parmi les nations, en tout lieu, un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations, dit le Seigneur des armées. » Alors l'enjeu de ce texte est le suivant. Y a-t-il une reconnaissance du culte rendu par les païens ou par certains païens à leur Dieu? Relevons un certain nombre d'expressions employées par le prophète. Grand est mon nom parmi les nations donc à l'extérieur d'Israël, les païens, en tout lieu, il est question de culte, puisqu'il est question d'encens, de parfum qui est brûlé en l'honneur des dieux ou de Dieu. Il est même, le mot offrande aussi est employé, offrande pure. C'est un terme général, offrande, qui peut s'appliquer à la fois à des sacrifices sanglants ou à des offrandes végétales, offrande pure. Et puis vous avez aussi cette perspective universelle du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ça n'est pas une indication de durée, mais c'est une indication géographique, c'est-à-dire sur toute la terre. En tout lieu, sur toute la terre, un culte avec de l'encens qui est brûlé, des offrandes qui sont apportées parmi les nations. Voilà ce qui est apporté à Israël. Et il y a ici un contraste très net qui est offert par le prophète. Contraste entre le culte au temple de Jérusalem, le lieu où Dieu doit être adoré, et puis en tout lieu. Un contraste entre Israël, le peuple élu, qui connaît le vrai Dieu et qui doit l'adorer, et puis parmi les nations, et le contraste, bien sûr, entre le culte indigne de Dieu qui lui est rendu à Jérusalem, et puis l'offrande pure qui lui est rendue parmi les nations. Alors, avant d'énumérer un certain nombre de propositions qui ont été faites pour comprendre le texte, il faut quand même signaler qu'il y a quelques difficultés de syntaxe qui n'apparaissent peut-être pas à la traduction en français, mais c'est un texte qui n'est pas très facile à lire en hébreu. Mais je ne voudrais peut-être pas trop abuser de l'hébreu, mais il y a deux participes passifs qui se suivent. Le premier qui signifie être offert de l'encens. Est offert, de l'encens est présenté, c'est le verbe encenser. Donc littéralement, est encensé, plutôt, c'est un participe, ça signifierait plutôt encenser. Et puis le deuxième, c'est présenter. Donc il y a encenser, présenter, participe passif. Deuxième difficulté, donc, et ils ne sont pas reliés, hein, il y a simplement encenser, présenter à mon nom. Et puis, il y a une conjonction de coordination devant offrande pure, ce qui surprend un peu, encenser, présenter à mon nom et une offrande pure. Alors, quant à l'usage habituel des mots, on s'attendrait à en tout lieu est encensé à mon nom et une offrande pure est apportée. Ça, ce serait une phrase qui serait une phrase assez banale. C'est l'usage normal des termes. Alors, à cause de cette difficulté, certains ont proposé de remodeler le texte. C'est le cas dans la Bible hébraïque de Kittel. On a proposé de déplacer le mot « apporter » à la fin de la phrase, ce qui donne la structure que j'ai évoquée tout à l'heure. « En tout lieu, encensé à mon nom, et une offrande pure est amenée, est apportée. » Dans la BHS, l'édition de Stuttgart, on propose une autre modification. Est offert de l'encens et est présenté à mon nom une offrande pure. D'autres ont proposé, sans modifier le texte, de comprendre le premier participe comme ayant la valeur d'un substantif. Et c'est le cas, par exemple, dans la Tob. Au lieu de être encensé, au lieu d'encenser, on a l'encens. Le passif est compris comme un substantif. Donc de l'encens est apporté. Mais la difficulté, c'est que l'encens, normalement, on ne l'apporte pas. L'encens, on le brûle. Et donc, ça n'est pas si naturel que cela. Si on donne aux deux participes leur valeur verbale, la syntaxe est un peu surprenante, mais elle reste quand même intelligible. Donc, on n'a pas affaire à une difficulté insurmontable. On encense, on apporte à mon nom, et c'est une offrande pure. C'est intelligible. Hein. Mais on peut se demander si cette syntaxe un peu heurtée correspond à une intention particulière de l'auteur. Et là, on va retrouver les différentes interprétations proposées. On va voir si éventuellement l'une d'entre elles permet de rendre justice à cette syntaxe un peu surprenante. Les différentes interprétations qui sont proposées cherchent à répondre à deux questions principales à propos de ce texte. La première question, c'est qui sont ceux qui offrent à Dieu ainsi une offrande pure dans le monde entier? Alors, on peut énumérer quatre réponses. Première réponse, ce sont les païens dans leur ensemble, puisque c'est dans le monde entier, en tout lieu. Donc, d'une manière générale, les païens offrent à Dieu un culte qui l'honore. Comment ? Ça, c'est une autre question. Donc, les païens dans leur ensemble. Ou alors, deuxième possibilité, certains païens qui connaissent le Dieu unique. Et là, on fait souvent, on fait remarquer deux choses. D'abord, la naissance de la religion perse, ou du moins le développement de la religion perse à l'époque de Malachie, avec l'idée d'un Dieu unique. Et puis également, l'emploi à cette époque, dans l'Ancien Testament, de l'expression « le Dieu du ciel ». C'est une expression qui est employée par les païens lorsqu'ils parlent du Dieu d'Israël, et c'est une expression qui est employée aussi par les Israélites lorsqu'ils parlent de leur propre Dieu. Donc, le Dieu du ciel, une manière de désigner le Dieu d'Israël avec des rapprochements possibles avec le culte ou alors la conscience que peuvent avoir les païens du Dieu unique. Donc ça, c'était la deuxième possibilité. Certains païens qui adorent le Dieu unique, qui connaissent le Dieu unique. Troisième possibilité, ce sont des prosélytes, c'est-à-dire des personnes d'origine païenne qui ont eu la connaissance du Dieu d'Israël et qui donc honorent le Dieu d'Israël. Et puis, quatrième possibilité, ce sont les juifs dispersés. Remarquez qu'il est dit « parmi les nations ». Grand est mon nom, parmi les nations. Alors, faut-il comprendre que ce sont les nations, les païens eux-mêmes qui honorent Dieu, ou que c'est parmi les nations qu'il y a des juifs qui honorent Dieu? Alors, les arguments principaux qui vont être déployés pour essayer de soutenir l'une ou l'autre de ces quatre propositions, l'un d'entre eux, c'est la catégorie envisagée « rend-elle justice aux expressions qui sont employées par le texte ?» du lever du soleil jusqu'à son coucher, en tout lieu, est-ce que ça peut être une description valable de la dispersion des Juifs à l'époque de Malachie ? Certains le contestent, en disant que c'est quand même trop peu pour parler d'un culte universel rendu à Dieu. Et puis, autre argument qui va être cité et développé pour essayer d'arbitrer entre les solutions proposées, c'est le contexte. Le contexte dans le livre de Malachie. Est-ce que Malachie est prêt à dire que les païens adorent Dieu d'une manière qui le satisfait ? Est-ce qu'il a une perspective universaliste de ce type ? Alors on cite certains passages du livre de Malachie, et en particulier, il faut citer au chapitre 2, le verset, alors je vais mettre mes lunettes, je crois que c'est le verset 11, donc c'est le même numéro, voilà. Il est question de mariage avec des femmes étrangères, et ce mariage avec une femme étrangère est qualifié de mariage avec la fille d'un dieu étranger. Donc ça semble une perspective de type syncrétiste où tous les païens seraient considérés comme des bons adorateurs de Yahvé alors que le peuple d'Israël l'adore mal. Ça cadrerait assez mal avec cette affirmation qu'il ne faut pas épouser des étrangères parce que c'est la fille d'un dieu étranger. Alors certains ont dit à cause de cela que ce verset 11 était une adjonction, puisque c'est pas la... Vous voyez, mais comme ça, c'est trop universaliste, c'est pas la pensée de Malachie, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a rajouté. Mais qui est cet autre qui l'a rajouté? Pourquoi? Et puis, lorsqu'on en arrive à des solutions de ce genre, c'est qu'on a épuisé toutes les autres possibilités. Et est-ce que ça n'est pas un peu dangereux, lorsqu'on a de la peine à comprendre, de dire ben, ça doit être une adjonction? Ça, c'est donc la première question. Qui sont ceux qui apportent au Seigneur l'offrande pure? Deuxième question. L'offrande envisagée ici est-elle présente ou future? Est-ce que c'est maintenant que le Seigneur reçoit cette adoration ou est-ce que c'est plus tard qu'il va la recevoir? Vous voyez que si on interprète, on considère que c'est dans le futur, il n'y a plus le même problème. Puisque avec les temps messianiques, la connaissance du vrai Dieu sera diffusée dans toutes les nations, et donc il y aurait là une perspective messianique, un universalisme qui est celui de la connaissance de Dieu par par la prédication de l'Évangile après la venue du Messie. Alors, cette interprétation-là est celle qui a été proposée par de nombreux commentateurs chrétiens, par les réformateurs, Luther, Calvin, au XIXe siècle par Kyle, et au XXe siècle par Joyce Baudwin, par exemple, dans son commentaire de la série Tyndale, et par encore d'autres auteurs. Elle a généralement la faveur des interprètes évangéliques. Mais, problème. C'est vrai qu'un participe en hébreu, il pourrait très bien se comprendre au futur, puisque le participe peut être employé pour le présent, mais il peut être aussi employé pour le futur, dans le domaine du futur, dans la sphère du futur, il peut être aussi employé dans la sphère du passé. Donc, c'est vrai qu'un participe pourrait être employé dans la sphère du futur, mais étant donné que le texte est au présent, il faudrait qu'il y ait un indice qui nous montre qu'on doit comprendre le participe au futur, puisque le participe n'indique pas qu'on est au futur. Il peut s'intégrer dans un futur, mais lorsqu'il se trouve dans un contexte qui est au présent, il est naturel de le comprendre comme un présent. Et si on avait voulu dire, si on avait voulu souligner que l'événement était futur, il aurait fallu que l'auteur emploie un adverbe qui indique qu'on passe du présent au futur. Donc c'est très peu naturel de comprendre le participe par un futur. Rien ne l'indique. Et deuxième argument contre cette solution-là, cette compréhension du texte au futur, deuxième argument, la force de l'affirmation de Malachie dans son contexte vient du fait, ne vient-elle pas du fait que c'est maintenant que le Seigneur est honoré comme il devrait l'être. Et au verset 12, il y a la transition, « Mais vous, vous le profanez. » Donc, « Grand est mon nom parmi les nations, et vous, vous le profanez. » L'argument serait beaucoup moins fort si Malachie disait, « Mon nom, plus tard, sera honoré, mais vous, vous le profanez. » Si c'était d'ailleurs plus tard, il devrait dire, « Mais vous, maintenant. » Et il ne le dit pas. Il dit, « Vous, vous le profanez. » Donc, il y a une opposition entre ceux qui honorent Dieu de manière satisfaisante présentement, et puis le peuple d'Israël qui ne l'honore pas. Alors, à ces deux questions principales, la question des personnes qui rendent à Dieu, apportent à Dieu cette offrande, la question du temps, de l'époque à laquelle l'offrande est apportée, le présent ou le futur, on peut ajouter quelques autres questions secondaires, mais qui ne sont pas sans incidence sur les interprétations proposées. Première question, celle du langage du prophète. Faut-il prendre son langage au sens propre ou au sens figuré ? Son affirmation, faut-il la prendre au sens propre ou au sens figuré ? L'encens, l'offrande, est-ce que c'est vraiment de l'encens, est-ce que c'est vraiment une offrande, ou est-ce que c'est une manière figurée de parler de la prière, par exemple, d'un hommage rendu à Dieu, mais qui ne serait pas rendu à Dieu dans le cadre d'un culte où on offre de l'encens et où on apporte une offrande. Cette image, elle est déjà présente dans l'Ancien Testament, par exemple, enfin, ailleurs dans l'Ancien Testament, l'auteur du psaume 141 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. » Donc, si on comprend « encens » et « offrande » au sens imagé, on pourra peut-être dire « Parmi les nations, il y a des juifs, parmi les nations, il y a des prosélytes, parmi les nations, il y a des païens qui ont une conscience du Dieu unique, du vrai Dieu, et qui, d'une certaine manière, dans leur pensée, par leur prière peut-être, l'honore. Donc, ça n'est pas le culte des païens qui serait ici considéré comme honorant Dieu, mais c'est l'hommage rendu par les païens qui connaissent Dieu et qui éventuellement le prient. Et si Malachie a présenté ce culte, qui est plutôt un culte spirituel, s'il l'a présenté de cette manière-là, en parlant d'encens et en parlant d'offrande, c'est parce que, dans le cas des Israélites, il s'agit bien de culte, il s'agit de sacrifice. Voilà, moi, l'encens et l'offrande qui m'est agréable, C'est un culte qui n'est pas un culte présenté sous forme d'encens et d'offrande, mais qui est un culte spirituel. Donc là, il faudrait comprendre les expressions dans un sens symbolique, imagé. Deuxième question, l'affirmation de Malachie doit-elle être prise au pied de la lettre ? Ou présente-t-elle un caractère hyperbolique ? C'est-à-dire qu'il y a une certaine exagération. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, en tout lieu. Pour développer cet argument, cette suggestion, on souligne que c'est pour faire honte aux prêtres d'Israël que Malachie présente ou présenterait le culte des païens comme une offrande pure. C'est l'interprétation que propose Robert Goldenberg dans cet ouvrage qui est apparu l'année dernière, The Nations That Know Thee Not. Les nations qui ne te connaissent pas, c'est comment dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme est vu le culte des païens. Donc il y a cette exagération qui est propre à la diatribe. Certains auteurs disent, si Malachi devait relire son texte à tête reposée, il ne dirait pas exactement la même chose, ou en tout cas il ne serait pas prêt à dire les païens honorent Dieu de manière satisfaisante. C'est simplement pour faire honte aux Israélites qu'il a dit les païens font mieux que vous. Mais le problème avec cette interprétation là c'est que Malachi ne dit pas les païens font mieux que vous, mais il dit je suis honoré, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et si pour les auditeurs de Malachi, il était évident que les païens ne rendent pas à Dieu un culte satisfaisant, l'argument de Malachi tomberait. Alors, troisième proposition secondaire pour essayer de compléter les deux questions principales qui ont été posées. Qui sont ceux qui honorent Dieu de cette manière et à quel moment cet honneur lui est rendu? Dans un article qui est apparu en 1994 dans le Tyndale Bulletin, un nommé Hack Wiberg, W-I-B-E-R-G, propose de considérer que le culte rendu à Dieu, cette expression n'est en fait qu'un développement de la métaphore royale. Dieu se présente comme le roi. C'est d'ailleurs « Grand est mon nom parmi les nations » encadre cette mention de l'encens qui lui est offert. Et donc, Malachi reprendrait une image bien connue. Yahvé est un grand roi parmi toutes les nations, même si toutes les nations ne l'honorent pas et ne le reconnaissent pas comme un grand roi. Il est quand même un grand roi, image du Dieu d'Israël comme le roi, il parlerait de cet encens qui lui est apporté. À mon avis, la faiblesse de la démonstration de Wiberg, c'est qu'il ne distingue pas clairement entre les deux propositions suivantes. Yahvé est encensé en tout lieu, il est honoré en tout lieu, et puis autre proposition, Yahvé est digne d'être encensé en tout lieu. Et incidemment ou subrepticement, sans le signaler, sans l'expliquer, il glisse de l'une à l'autre. Et dans sa conclusion, il finit par dire « Malachi espère que les prêtres comprendront que le Dieu dont il néglige le culte est le Dieu suprême qui règne sur tout et qui mérite pour cela d'être adoré par tous. » Alors la question est-ce que Dieu est adoré par tous ou est-ce qu'il mérite d'être adoré par tous? C'est pas la même chose. Et Wiberg n'a pas vraiment répondu à la question. Alors, je pense qu'on peut essayer de trouver des indices pour répondre à la question. Le premier indice, c'est que Malachi emploie le passif. En français, ça n'apparaît pas clairement parce qu'en français, on n'a pas de passif impersonnel et on est donc obligé de traduire par un actif impersonnel. On apporte, alors qu'en hébreu, on a est encensé apporter. Ça, c'est un premier indice qui est bien relevé par la plupart des auteurs. Ils soulignent ce passif. Donc, Malachi ne veut pas dire les païens font bien, mais Dieu est honoré. Deuxième indice qui, lui, je crois, n'a pas été relevé, c'est que ces participes passifs peuvent, dans certains cas, avoir une valeur d'adjectif. Et ces participes passifs qui sont employés en rapport avec la grandeur de Dieu dans ces adjectifs, il y en a, ou dans ces participes passifs, il y en a deux qui sont particulièrement significatifs. Il y a l'adjectif redoutable, celui qui est traduit généralement par redoutable. En hébreu, en fait, c'est un participe passif, redouté. Mais redouté a le sens de redoutable. Nora, participe nifal du verbe yare, craindre. Lorsque Jacob, on le voit clairement, lorsqu'il s'agit d'un lieu, lorsque Jacob, après s'être réveillé de son songe, fait cette déclaration que ce lieu est redoutable, mais il emploie un participe passif que ce lieu est redouté. Et également, on dit de Dieu qu'il est loué, mais généralement, c'est traduit en français « digne d'être loué », »,« digne de louange », alors qu'on a affaire à un participe passif. Le problème, c'est qu'en hébreu, on a beaucoup moins d'adjectifs qu'en français. On n'a pas de ces adjectifs en « able », »,« redoutable »,« louable », oui, « louable », on pourrait dire, mais en élargissant le sens. Il y a des compléments, en tout lieu, et puis apporté à mon nom. Donc c'est plutôt verbal qu'adjectival, mais peut-on aussi porter au crédit de l'emploi verbal un sens qui est attesté dans l'emploi adjectival? Voilà la question qui est posée. Alors, oui. Je passe sur certaines remarques complémentaires. Si cette interprétation est exacte, c'est-à-dire si le texte dit « Grand est mon nom parmi les nations, en tout lieu, digne de recevoir l'encens, digne qu'on lui apporte et que ce soit une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations », si cette interprétation est exacte, le texte ne peut offrir aucune caution au culte païen. Mais l'interprétation étant originale à ma connaissance, j'ai consulté un certain nombre de commentaires et aussi un certain nombre d'articles qui ont paru sur le sujet, il y en a un nombre assez important, je n'ai pas trouvé cette interprétation-là fondée sur l'emploi du participe passif. Donc, je resterai pour ma part prudent, le texte reste difficile, il y a d'autres manières de le comprendre, en tout cas d'autres manières de comprendre pourraient être retenues. À mon avis, il n'est pas sage de retenir le futur, ça ne me paraît pas soutenable, bien que beaucoup l'aient soutenu, et des personnes tout à fait respectables, mais ça me paraît vraiment forcer le sens du texte que de le prendre pour un futur. Ce qui pourrait être retenu, par exemple, c'est l'interprétation métaphorique de l'encens et de l'offrande comme image de l'honneur qui est rendu à Dieu partout dans le monde par les juifs, par les prosélytes et par certains païens. Donc là, on garde une perspective universelle parce que les trois catégories païens, prosélytes, juifs ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. Ça peut être les juifs et les prosélytes et certains païens. On aurait là d'ailleurs un thème assez classique dans l'Ancien Testament qui est de comparer les Israélites infidèles à des païens plus scrupuleux, qui respectent davantage leur religion et qui font donc honte au peuple de Dieu. Et ce thème-là, ce thème des païens plus justes et plus scrupuleux que les juifs, est un thème qui n'est pas sans pertinence pour le dialogue interreligieux. Oui. Mais il y a aussi dans l'Ancien Testament des païens qui se montrent plus respectables que, par exemple, Abimélec est a une conduite plus honorable que celle d'Abraham dans l'affaire qui les oppose. Je voudrais ajouter une conclusion qui me paraît importante en rapport avec ce texte. Il est toujours imprudent de détourner les textes bibliques de leur intention évidente. La parole est adressée aux Israélites négligents pour leur faire honte. Et ça, beaucoup de commentateurs le soulignent. Et ce serait détourner le texte de son intention que d'en faire une justification du culte des païens. Et par voie de conséquence, ça pose aussi la question de la situation et de l'intention de celui qui utilise le texte. À qui parle-t-il ? Que cherche-t-il à démontrer en utilisant le texte de cette manière-là ? Si l'on parvenait, par exemple, à déduire de ce texte une forme d'universalisme des religions, toutes les religions, en fait, honorent Dieu, honorent le vrai Dieu. À qui le message pourrait-il être destiné ? Est-ce que ce message pourrait être destiné aux adeptes des autres religions ? À mon avis, ils s'en fichent complètement. Parce que les adeptes des autres religions pensent que leur religion est la bonne. Donc que des chrétiens viennent leur dire « votre religion est bonne », ça ne les intéresse pas. Ce message est-il destiné aux chrétiens pour leur donner la satisfaction d'être des gens très tolérants qui considèrent que la religion des autres est quand même honorable aux yeux de Dieu ? Voilà. Donc, on se donne une petite auréole de tolérance. Mais ce n'est pas cela du tout que suggère le texte. Au contraire, le message de Malachie, c'est de faire honte aux serviteurs du vrai Dieu qui honorent si mal leur Dieu. Et ce n'est pas de leur donner l'occasion de se faire une bonne conscience en disant « les autres, ils honorent Dieu ». Alors, le temps passe. Je vais quand même dire quelques mots à propos de Deutéronome 4, versets 19 et 20. Dans ce passage, l'auteur dénonce pour Israël le risque d'adorer le soleil, la lune, les étoiles et de leur rendre un culte. Oui. De rendre un culte au soleil, la lune et les étoiles. Il dit « L'Éternel ton Dieu les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. Mais vous, le Seigneur vous a pris pour vous faire sortir de la fournaise et pour faire de vous son peuple héritage. » Les mots « partage » et « héritage » sont des mots de la même famille en hébreu. Donc, qu'est-ce qui est affirmé par le texte ? Dieu est le maître souverain, c'est lui qui a pris Israël comme son héritage, et à cause de cela, Israël ne doit pas adorer les astres. Et ce Dieu souverain a donné les astres en partage ou en héritage à tous les peuples. Alors on pourrait se demander si, à la limite, même l'idolâtrie ne dépend pas de Dieu. Si les païens adorent les astres, c'est parce que Dieu le leur a donné en partage. Deuxième chose qu'il faut remarquer à propos du texte, il y a une dissymétrie entre Dieu qui prend Israël en partage, donc Israël est le partage de Dieu, et puis les astres qui sont le partage des peuples. Il n'est pas dit « Dieu a pris Israël comme sa part » et a donné aux astres les autres peuples comme leur part. Vous voyez la dissymétrie entre divinité et adorateur. Israël comme peuple est la part de Dieu, et les astres sont la part des peuples. Ce ne sont pas les peuples qui sont la part des astres. Vous voyez, la dissymétrie dans le texte, cette dissymétrie est importante. Surtout lorsqu'on compare au texte de Deutéronome 32, où il est question d'un partage. Encore une autre remarque, il n'est pas question explicitement de divinité, mais d'astres. Le soleil, la lune, les étoiles. Alors bien sûr, ce qui est dénoncé, c'est l'adoration du soleil, de la lune et des étoiles. Mais ce ne sont pas à proprement parler des divinités, ce sont des réalités créées. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et ils existent, indépendamment du culte que peuvent leur rendre des êtres humains. Donc on ne peut pas se fonder sur ce texte pour soutenir que Dieu reconnaît une existence aux divinités adorées par les hommes. Il ne dit pas ce sont les divinités adorées par les païens qui sont la part que Dieu leur a donnée. Il dit ce sont les astres qui sont la part de Dieu. Une interprétation minimaliste du texte, minimaliste dans le sens d'un crédit apporté au culte des idoles, une interprétation minimaliste serait de dire, et cette interprétation minimaliste on la rencontre dès les époques les plus anciennes de l'exégèse, les astres sont donnés aux hommes pour les éclairer. C'est la fonction naturelle qui a été prévue par le Créateur. Le soleil, la lune, les étoiles sont la part de tous les peuples, sous tous les cieux. Dieu a donné ses astres pour éclairer les hommes. On peut faire donc, et ce serait par perversion, une perversion dont Dieu n'est pas responsable, que les hommes adorent le soleil, la lune, les étoiles. Dieu donne à toutes les nations les astres, et certains, à tort, les adorent. On remarquera d'ailleurs que le texte ne dit pas « cela leur a été donné par Dieu, leur a été attribué par Dieu », c'est-à-dire d'adorer. Ce n'est pas un neutre qui est employé, mais eux, le soleil, la lune, les étoiles. On remarquera encore que le texte ne dit pas « les nations », mais « les peuples ». Donc, si on dit tous les peuples, ça englobe aussi Israël. Il y a une discussion à propos de cette interprétation chez un commentateur juif qui dit cette interprétation n'est pas tenable parce que ça voudrait dire que les Israélites n'ont pas reçu le soleil, la lune et les étoiles pour les éclairer. Mais comme il y a tous les peuples et pas toutes les nations, bon. Donc, toutes les nations, il y aurait une sorte d'affirmation relative à la création. De par la création, tous les peuples, Israël compris, ont le soleil, la lune, les étoiles en partage. Mais de par la rédemption, Israël est le seul à avoir été pris par Dieu et racheté par Dieu pour être son peuple. Mais le parallèle avec Deutéronome 29-25 semble plutôt suggérer que ce n'est pas la bonne interprétation et qu'il faut quand même comprendre que c'est l'adoration du soleil, de la lune et des étoiles qui, d'une certaine manière, est la part des nations. Puisque, vous pouvez lire le texte de Deutéronome 29-25. Ils sont allés servir d'autres dieux, et donc là, il ne s'agit pas de désastre. Ils sont allés servir d'autres dieux et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que le Seigneur ne leur avait pas donné en partage. Donc si vous mettez en rapport ce texte des dieux que le Seigneur ne leur avait pas donné en partage. C'est vrai qu'il n'y aura aucun texte qui affirme clairement que Dieu donne en partage des faux dieux aux païens. Ça, c'est pas aussi net que cela, mais ça semble plutôt indiquer, puisqu'Israël n'a pas reçu en partage des faux dieux, que il faut plutôt comprendre le texte de Deutéronome 4 comme indiquant l'adoration des astres par les païens comme étant en quelque sorte la part que Dieu leur a faite. Alors, oui, c'est difficile maintenant d'ajouter Deutéronome 32. Je vais quand même dire quelque chose sur Deutéronome 32, versets 8 et 9. La particularité de Deutéronome 32 par rapport à Deutéronome 4, 19, c'est de mentionner un partage des peuples. Dans le texte massorétique, le texte hébreu, il est dit, il a fixé les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Alors là, il n'y a pas de problème quant aux divinités des nations. Mais d'après la version grecque des Septante et d'après deux manuscrits de Qumran, et ce sont les deux seuls qu'on ait retrouvés sur le texte, d'après ces manuscrits-là, il a fixé les limites des peuples selon le nombre des anges, dit le texte, certains manuscrits du texte grec, ou selon le nombre des fils de Dieu, disent d'autres manuscrits du texte grec et le manuscrit de Qumran. Alors, si la leçon de la Septante et de Qumran est authentique, et là on n'a pas le temps d'en discuter, cela pourrait signifier que les peuples sont répartis entre les êtres, entre des êtres célestes, des divinités ou des anges. Cette idée-là a été très largement développée dans la tradition juive. On en trouve des développements dans la littérature intertestamentaire. Répartition des nations entre des anges tutélaires. Et 70 peuples, d'après Genèse 10, 70 peuples, 70 anges. Donc il y aurait 70 peuples parce qu'il y a 70 anges et à chaque ange, un peuple serait attribué. Et il pourrait y avoir un rapport entre ces anges ou ces divinités auxquelles les peuples seraient. La prière contre les anges territoriaux, puisque donc des groupements humains ou des zones déterminées seraient attribuées à certains anges et donc à certains démons. Alors, le rapprochement avec Deutéronome 4, 19 et 20 et avec Deutéronome 29, 25 incite plutôt à la prudence en rapport avec ce thème-là. Il faut remarquer aussi que le partage des nations est associé au nom de Elyon. Et ce nom de Elyon dans le Deutéronome n'est employé que dans deux cas précis en dehors de Deutéronome 32. Il est employé dans l'histoire de Melchisédek. El Elyon, c'est le dieu dont Melchisédek est le prêtre. Et puis, il est employé dans les oracles de Balaam. Mais il n'est jamais employé dans le Deutéronome par l'un des patriarches. Sauf, bien sûr, Abraham qui dit, et on y reviendra ce soir, il prête serment par Yahvé El Elyon. Donc il établit une correspondance entre le dieu dont Melchisédek est le prêtre et puis le dieu qu'il adore lui-même. Mais donc le mot est aussi employé en Deutéronome 26 et Deutéronome 28, mais là ça n'est pas un titre divin parce que Elyon c'est un adjectif qui signifie supérieur. Donc Israël sera supérieur aux nations, il est dit que Dieu est supérieur. Mais ça n'est pas un titre divin, un nom divin comme Elyon. Donc il n'est pas impossible que l'auteur évoque un mythe de partage des nations entre les dieux. D'ailleurs, dans la mythologie d'Ougarit, il y a une tradition des 70 fils d'Athirat. Athirat, c'est qui est peut-être l'équivalent de Asherah, c'est une grande divinité féminine. Elle a 70 fils. Et ces 70 fils d'Athirat, c'est l'ensemble des dieux. Donc, il y a ce mythe du partage des nations entre les dieux, auquel l'auteur oppose l'action de Yahvé dans l'histoire. Mais la part de Yahvé, c'est Israël. Donc, dans le mythe, Élyon partage les peuples entre les divinités. Mais la part de Yahvé, c'est son peuple. Et cette part, il ne l'a pas reçue lors d'un partage entre divinités. Il l'a reçue parce qu'il a agi dans l'histoire. Il a conquis Israël. Il a trouvé Israël dans le désert. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Donc, le texte va du mythe vers l'histoire. Et c'est un retour au mythe qu'opère la littérature intertestamentaire. Elle réhabilite le mythe du partage des peuples entre divinités. Et c'est pour cette raison, je proposerai de ne pas relier Daniel 10 à Deutéronome 32 et de voir dans Daniel 10 simplement l'action d'être céleste. Derrière les événements de l'histoire, mais pas de rapport avec Deutéronome 32 qui parle du choix de Yahvé d'Israël, Israël qui est devenu la part du Seigneur. Alors l'idolâtrie des païens est en fait une question à laquelle l'Ancien Testament donne peu de réponses, ou on pourrait dire même pas de réponses. L'Ancien Testament dit Israël s'est révélé à Dieu s'est révélé à Israël. L'Ancien Testament dit les païens sont idolâtres. Les divinités qu'ils adorent ne sont pas des dieux. Dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie est sévèrement condamnée et critiquée lorsqu'il s'agit d'Israël. Pour les païens, ce qui leur est reproché, c'est leur mauvaise conduite. Alors là, ça demanderait peut-être à être creusé davantage, mais j'ai lu ça chez un certain nombre d'auteurs, et ça me semble bien correspondre à la réalité. Lorsque les prophètes condamnent les païens, ils ne les condamnent pas pour avoir adoré des idoles, mais ils les condamnent parce qu'ils ont eu une conduite qui était moralement répréhensible. Et ça peut rejoindre une des conclusions que je proposerai des rapports entre le Dieu d'Israël et les autres, enfin, entre les Israélites et d'autres et des païens à l'époque qui a précédé le choix d'Israël. Donc, est-ce à dire que l'idolâtrie des païens serait excusable? Alors ça, l'Ancien Testament ne le dit pas. Il annonce par contre, alors ça c'est la perspective eschatologique de l'Ancien Testament, la reconnaissance du vrai Dieu par toutes les nations. Donc ça c'est la perspective qui nous est proposée, que toutes les nations adoreront Dieu avec Israël. Alors je réserverai les conclusions pour ce soir, et d'ailleurs ce seront de toute façon des conclusions provisoires puisque elles seront basées sur l'Ancien Testament. Je voudrais simplement tirer une conclusion relative à l'étude de l'Ancien Testament. La révélation ne nous donne pas réponse à tout. Même si elle nous révèle un Dieu que le Dieu qui s'est fait connaître à Israël, le Dieu qui s'est fait connaître à nous par Jésus-Christ est un Dieu universel, ça ne fait pas de nous des êtres universels. Nous savons nous ne savons pas pourquoi dans l'Ancien Testament Dieu a laissé les païens dans l'ignorance et dans quelle mesure il leur a tenu rigueur de l'ignorance dans laquelle ils se trouvaient. Alors, un des problèmes, un des défis du dialogue des religions, c'est que ce dialogue tente à appeler une connaissance universelle. Puisqu'il faut essayer de s'élever au-dessus des différentes religions pour en avoir une vision générale et pour essayer d'avancer des affirmations universelles. Je crois que la réponse des chrétiens doit rester dans ce domaine une réponse modeste et ferme. Voilà ce que nous savons, voilà ce que nous pouvons dire, voilà ce dont nous témoignons, mais nous ne pouvons pas donner des réponses aux questions auxquelles l'Écriture ne nous a pas donné de réponse.